Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël, le R de Girafe, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour mon émission Quelques minutes dans la vie d'un entrepreneur. Alors là, c'est un peu particulier, c'est pas un entrepreneur que j'ai devant moi, c'est trois entrepreneurs. Ça va être un exercice de style amusant, c'est une première. Donc on va passer quelques minutes avec Grégory Le Barbier, Anthony Dutot, Christophe Kovacs, qui ont repris tous les trois l'agence AXA au Havre. L'idée donc du parcours, comme à chaque fois sur ces émissions-là, c'est de découvrir un peu ces entrepreneurs, de savoir quel est leur parcours, quel est leur rapport avec le Havre et comment ils en sont arrivés là. Donc bonjour messieurs.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Raphaël, merci de nous accueillir.
C'est un vrai plaisir. Donc c'est une première, je le disais, parce qu'on se retrouve à faire un exercice de style, à parler à trois. On va avoir donc trois parcours différents qui n'en font finalement plus qu'un aujourd'hui. Donc on va peut-être commencer par Grégory. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi, nous dire qui est Grégory, d'où tu viens et comment t'en es arrivé rapidement à rejoindre tes deux acolytes?
Avec plaisir. Donc je m'appelle Grégory Le Barbier, je suis originaire du Havre, donc je suis né au Havre avec une bonne partie de ma famille encore au Havre aujourd'hui. Et alors j'ai un parcours un petit peu atypique pour arriver dans le monde assurantiel puisque je ne viens pas du monde de l'assurance et j'ai démarré ma carrière dans le monde de la tech sur les 10 premières années pour ensuite, et je vais vous raconter rapidement comment, mais pour ensuite arriver dans ce secteur d'activité passionnant qu'est le monde de l'assurance. J'ai démarré donc moi à Paris dans une petite structure pour ensuite sur les 7 années qui ont suivi intégrer une multinationale qui s'appelle SAP, éditeur de logiciels.
Ça c'est une plus grosse structure. La première structure c'était quoi?
C'est une structure qui s'appelle Forwork avec notre ami Jérôme Guillemin qui est une PME qui m'a permis de démarrer ma carrière dans ce monde. Alors c'était un marché de niche mais dans ce monde de la tech et qui m'a permis d'intégrer un gros groupe dans un second temps. Donc c'était un très beau tremplin pour moi en sortie d'école de commerce que j'ai fait au Havre pour découvrir un secteur d'activité, me faire un réseau aussi à Paris et aux alentours et de fil en aiguille d'intégrer cette multinationale qui a été une formation extraordinaire qui m'a amené à Paris puis à Barcelone en expatriation pour ensuite revenir aux sources, revenir aux origines, et j'en suis très fier, revenir au Havre dans le cadre d'un projet entrepreneurial avec deux profils complémentaires et très différents. Donc avec Christophe que j'avais rencontré chez SAP en 2014 à l'époque sur Paris, qui lui avait sauté le pas, il en dira plus, vers le monde de l'assurance, et avec qui on est resté en contact pour, par le plus grand des hasards, en période de Covid, pour faire original, on a renoué contact via les réseaux sociaux, et quand je lui ai demandé un retour d'expérience, eh bien ça a fait tilt dans ma tête avec deux, trois points clés qui nous ont amenés à cette association. Et Anthony, qui est un ami d'enfance avec qui on se posait des questions sur l'entrepreneuriat au sens large du terme. On avait eu des premières idées, on avait avorté certains projets puisque on estimait que c'était pas le bon moment ou pas la bonne thématique, mais en tout cas sur une autre approche. Et là, les planètes se sont alignées plutôt rapidement au moment où on a eu cette opportunité de reprendre l'agence du Havre au début.
Donc un parcours de salarié au départ, et puis à un moment donné tu parlais d'alignement de planète, on va d'ailleurs passer sur la deuxième planète qui est Christophe, et c'est souvent d'ailleurs comme ça que commencent les histoires entrepreneuriales. Donc alors, Christophe, tu peux nous parler un peu de toi?
Absolument, moi c'est la planète cheveux gris.
Puisque il faut toujours des seniors dans les belles aventures.
Merci de le souligner. Moi j'ai 54 ans, j'ai démarré aussi comme salarié dans la tech, dans le digital, tout de suite dans des grosses boîtes. La première boîte dans laquelle j'ai bossé c'était Oracle, et puis après je suis allé dans le décisionnel chez Cognos, et en 2005 je suis rentré chez SAP. Donc j'étais bercé sur la valeur de la data, le process des grandes entreprises, la manière dont elles structurent leurs ventes, leur logistique, leur RH. Et j'ai fait ça pendant 20 ans, des jobs un peu différents. J'ai commencé sur le terrain, j'étais consultant, j'avais rencontré des clients et je mettais en place les systèmes d'information. Et puis ensuite, j'ai voulu évoluer vers une fonction commerciale. Et en 2000, quand c'était l'Eldorado, de la dot-com. Tout était ouvert sur les possibilités de poste dans des fonctions de vente et j'en ai saisi une. Et j'ai fait mes premières armes à cette époque-là dans le commercial, ce qui m'a permis ensuite de passer chez SAP, manager commercial, pendant 5-6 ans. Et puis, comme certains, à 45 ans, je me pose quelques questions sur mon avenir professionnel, sur la seconde partie de ma carrière. Et je me rends compte qu'habitant à Rouen et travaillant à Paris, je commençais à être un peu usé par les trajets, les transports, l'intensité que me demandait mon boulot et le temps que je perdais de manière non opérationnelle. Et puis je me suis dit, bah Christophe, voilà, c'est le moment de prendre une décision. Alors cette décision, quelle est-elle ? Est-ce que je pouvais faire la même chose que ce que je faisais à Paris dans la région rouennaise ? La réponse est non, puisque la nature des sociétés avec lesquelles je bossais, on les retrouve qu'en Île-de-France. Premier élément. Deuxième élément, entreprendre, oui, mais entreprendre à 45 ans, ça change jamais.
Et avec qui?
Exactement, t'as raison. Alors, il y a différents types d'entrepreneurs. T'as l'entrepreneur bâtisseur et l'entrepreneur développeur. À 45 ans, je me voyais pas être un entrepreneur bâtisseur, mais je me voyais plutôt bien être un entrepreneur développeur. En minimisant peut-être éventuellement les risques de ce virage. On va en parler après. Mon épouse travaillant chez AXA, elle y travaille toujours d'ailleurs. On a eu à de nombreuses reprises l'opportunité de parler de qu'est-ce que le job d'un agent général, hein, quelle valeur il apporte à la société, quel est son quotidien. Et je me suis dit, allez, on tente l'aventure, on part proprement, et puis on se lance dans la piscine et on apprend à nager très rapidement.
Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Donc finalement, il y avait l'expertise du senior, enfin les deux. Donc là, vous vous êtes rencontrés, donc arrive le troisième, donc l'ami d'enfance. En tout cas, soit dit en passant, donc on voit que les Rouennais peuvent aussi s'inviter dans l'écosystème à vrai, et je ne peux que t'en féliciter, Christophe.
Ouais, je prends ça pour un compliment.
Mais c'en est un, et Radio Girafe, je te le rappelle, c'est Radio Girafe Normandie, et effectivement, ça concerne Caen et Rouen également. On va passer à toi, Anto.
Tout à fait, Anthony. Donc moi, j'ai 36 ans et 51 semaines, puisqu'on est là pour dire la vérité. Je ne vais pas commencer par un mensonge. Donc voilà, c'est pour revenir sur mon parcours. Moi, je n'ai pas évolué dans la tech dans le passé, à la différence de mes deux associés qui ont un parcours estampillé quand même sur ce modèle-là. Je suis passé plutôt dans le tertiaire. J'ai commencé ma carrière chez Air France KLM, puis ensuite dans une société américaine qui s'appelait CBS Outdoor, qui était l'extension de la chaîne CBS qu'on connaît, mais pour la partie affichage publicitaire extérieur. Et je m'occupais du pricing et du revenue management. Ce sont les personnages qui, dans le monde de l'aviation, font varier le prix des billets à la hausse et à la baisse pour maximiser le taux de remplissage des avions. Et j'ai fait ça donc sur la partie affichage publicitaire, puisque ça marche de la même manière pour toute la partie tertiaire, dès lors qu'on a un métier de service. Ensuite, je suis revenu au Havre. Donc j'ai vécu 3 ans à Paris, un peu plus de 3 ans à Paris pour ces expériences-là respectives. J'étais pas parisien dans l'âme, mais je pourrais revenir sur comment j'ai survécu à cette aventure parisienne, si tu le souhaites. Mais je voulais me rapprocher du Havre, me rapprocher de ma famille et de mes amis, puisque je suis un pur sang havrais, hein, je suis né au Havre. Et j'affectionne énormément cette ville. Donc je me suis rapproché du Havre en contrôle de gestion d'abord chez ex Grand Port Maritime du Havre, qui est devenu maintenant Aeropa, les trois ports de l'axe Seine, Rouen, Le Havre, Paris. Et ensuite j'ai fait 3 ans en tant que contrôleur de gestion industrielle chez Safran, dans l'aéronautique, où je m'occupais de la gestion des stocks en cours, un gros périmètre sur plusieurs sites, Burnley, Casablanca, Le Havre, Toulouse et Hambourg, avant de basculer sur ce projet. C'est Greg qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est Greg le lion entre nous trois, puisque finalement Greg connaissait Christophe, Greg me connaissait, Greg portait ce projet puisqu'il était à Barcelone, il souhaitait avoir un projet de vie qui le rapprochait du Havre, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est comme ça que l'aventure est née.
Bon, bah en tout cas c'est bien, je vois là on a un peu un périmètre, on voit qu'on a du commerce, on voit qu'on a de la gestion.
Oui, tout à fait.
Là on va rentrer un peu dans le vif du sujet, quand on a monté ces émissions-là et ces podcasts, l'idée c'est de savoir un peu c'est quoi la vie d'un entrepreneur. Alors 40 minutes c'est court, mais c'est que les gens qui nous écoutent puissent découvrir un peu les tenants et les aboutissants dans les parcours des entrepreneurs. On a fait quelques interviews déjà, on voit que les parcours sont suffisamment variés. En revanche, il y a toujours un dénominateur commun, c'est l'énergie. Vous en parliez tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui vous a poussé. Alors, d'abord à vous associer, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes trois, ce qui est assez rare, parce que le risque est ou plus confortable et c'est un moindre risque, ou pas. Donc, c'est d'abord, première raison, pourquoi s'associer? Ensuite, comment vous en êtes arrivé à vous associer et comment vous avez trouvé cet équilibre? Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
L'histoire, je peux prendre la main là-dessus. L'histoire de l'association, elle est née assez naturellement et finalement, c'est bien souvent des alignements de planètes auxquels on ne songe pas du tout. La réalité, c'est que moi, je suis dans le métier depuis 7 ans. J'étais agent général seul à Beuzeville.
Ah, t'avais déjà basculé.
Anthony et Grégory m'ont rejoint après 4 ans d'activité de mon côté, donc j'avais un petit peu de recul et d'expérience. Mmh. Et puis, je pensais jamais m'associer, parce que finalement, j'étais très bien tout seul, et puis tout seul, on a 100% de la décision. Mmh. Et dans la vie, il faut jamais dire jamais. Il se trouve qu'une opportunité s'est présentée de création d'une structure un peu plus importante pour redynamiser la place d'AXA dans l'écosystème Seine-Estuaire. Et la proposition était de créer un cabinet qui regrouperait l'agence historique d'AXA au Havre et puis l'agence de Beuzeville. Et pour ça, AXA avait besoin de deux locaux, parce que c'est important d'être local quand on travaille au Havre, et avait besoin aussi de quelqu'un d'un petit peu plus senior, un petit peu plus expérimenté, puis qui avait un profil assurance d'entreprise, qui était mon cas. AXA m'a proposé ce montage, sachant que précédemment avec Grégory, on était en contact aussi effectivement pour son évolution de carrière, et je me suis dit m'associer avec quelqu'un que je connais pas jamais, parce que c'est toujours tout beau, et puis à un moment donné on est face à des réalités, ouais, ça peut être compliqué, m'associer avec quelqu'un comme Greg, que je connaissais par avant, puisqu'on avait bossé ensemble, on était passé par la même boîte, une boîte très exigeante, et quand on y survit positivement, ça veut dire qu'on a le bon câblage, le bon mindset, hein, pour reprendre un terme que t'adores, Greg. Et c'est à ce moment-là qu'on a regardé le dossier et que je me suis dit, bah, tout seul on va vite, à trois on voit plus loin, allons-y.
Donc là, finalement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même il y avait une activité. On va dire que c'est quand même aussi parti un peu de ça, et ça a un peu nourri, Grégory et Anthony, un peu vos réflexions, de vous dire, tiens, une activité est là, vous exploriez, j'imagine, différents sujets. Et toi, tu étais, Christophe, dans une volonté de développement, finalement.
Exactement, une volonté de développement, et une volonté de développement organique dans l'assurance, c'est compliqué. Donc quand on peut faire de la croissance externe, c'est encore mieux, sachant que dans ces métiers-là, elle se fait sous certaines conditions. La condition numéro une, de la part des compagnies d'assurance qui sont nos mandantes, avec qui on est en relation contractuelle via mandat, c'est en général de s'associer.
D'accord. Donc là, toi, vous prenez contact. Grégory, tu dis, tiens, je suis en contact avec Christophe. Ça vient nourrir, vous échanger, et tu t'intéresses donc au monde de l'assurance à ce moment-là.
Exactement. On reprend contact de manière naturelle, ce qui n'avait rien à voir avec le monde de l'assurance et cette opportunité à la base. Et au coin d'une discussion, un matin, je me souviens très très bien, on échangeait à l'écrit via LinkedIn, pour ne pas le citer, ce réseau, et on s'organise un petit call le lendemain à 8h sur le temps de trajet de Christophe, et moi en plein Covid, confiné dans mon appartement à Barcelone, en tant que sales manager chez SAP. Et de là, on discute de pas mal de choses, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu échanger de vive voix. Et à la fin de la discussion, Christophe me dit « T'es bien à vrai, toi ?» Si je me souviens bien, parce qu'on avait, plein d'anecdotes en commun, on prenait des nouvelles respectives de nos business, etc. Et là, il me dit « Mais tu viens bien du Havre ?» Et je dis « Oui, mais d'où cette question ?» Et il me dit « Parce que j'ai entendu parler d'une opportunité qui est plutôt belle sur le papier au Havre. » Et je lui dis « Mais dans le monde de l'assurance, moi, j'ai pas trop de... J'ai pas d'appétence particulière pour ce monde-là. » Et de là, sans trop plus de commentaires de la part de Christophe, ma curiosité a été un petit peu...
un peu piquée.
Piquée au vif, et j'ai creusé. Et de là, toutes les planètes se sont alignées sur un temps un peu court quand même, puisque cette discussion date de mars 2020. Et la décision a été prise par nous trois, de fil en aiguille, en septembre de la même année.
D'accord. Alors, pour refaire le lien à toi avec Anthony, parce que après je reviendrai sur l'intérêt des associations, et c'est intéressant de voir qu'il faut quand même un déclencheur. Donc on voit que c'est quand même parti de quelque chose qui existait, et tu parlais de bâtisseur et de développeur, c'est parfois effectivement des profils différents. Donc toi, Anthony, comment t'as rejoint un peu, finalement ça part d'une conversation, peut-être Christophe a l'idée, toi tu rebondis sur l'idée, et ensuite pourquoi un troisième?
La conversation.
Si je peux me permettre de dire que t'es le troisième.
Bien sûr. Dans la chronologie. Je pense que dans l'ordre des choses, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en plus, c'est pas travestir la réalité. Nous, on a eu plein de discussions avec Greg dans le passé, mais qui étaient plutôt des discussions informelles, avec cette envie de mener un projet un jour, de voler de nos propres ailes. Et on a eu des idées qu'on n'a jamais mis en place, pour des raisons qui étaient justifiées ou non d'ailleurs, peut-être parfois un manque de courage ou parfois un manque de conviction sur les projets qu'on avait. Mmh. Et là, on sentait que c'était le bon moment, avec les bonnes personnes au bon endroit. Donc finalement, quand
ça, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment, c'est vraiment un dénominateur commun de beaucoup d'entrepreneurs. Alors, on sait que tout n'est pas forcément voué au succès, mais en tout cas, si on n'a pas cette intime conviction de départ, c'est difficile d'entreprendre.
Tout à fait. Et quand Greg m'a relancé sur ce projet-là, j'étais, moi, à l'époque, chez Safran, dans un contexte au tout début du Covid. On était vraiment sur les prémices du Covid avec tout ce qui se passait dans l'économie française et notamment dans l'aéronautique qui était assez pénalisée au début par ces éléments-là. Ce qui m'a aidé aussi à pousser ma réflexion sur le fait de « je passe », de « j'ai envie de faire un projet et je le réalise », à « je laisse encore ce projet-là passer et je serai que spectateur ». Donc en réalité, cette situation très atypique à laquelle on a tous été confrontés pendant ces mois-là m'a aussi permis de passer plus vite à la seconde et de dire « ok, on y va, on part, on fait cette expérience-là, on fait cette aventure-là tous les trois ». Donc, une conviction forte sur le domaine, pas sur l'assurance en tant que telle, sur le service, sur le conseil. Voilà, moi j'avais envie d'essayer d'évoluer dans cet univers-là avec des convictions sur on est dans un monde où les exigences sont de plus en plus élevées dans les métiers de service, et en contrepartie, en face de ça, on a souvent une dégradation de la qualité de service. Donc il y a une place à faire, même dans des métiers qui sont vieux comme le monde, comme l'assurance. Il y a des choses à faire, il y a de la modernité à apporter, et je pense qu'il y avait un créneau à prendre pour mettre notre pierre à l'édifice.
Donc là, on voit le trio est constitué. Donc ça c'est intéressant. Sur justement cette démarche, on parlait des associations, alors... Le fait d'avoir un peu plus d'expérience fait qu'on a souvent le recul. Vous avez, vous, tous les deux, enfin tous les trois d'ailleurs, parce que vous étiez dans des grosses structures. On va aborder le sujet donc de la prise de décision de se lancer. Quand vous faites ça, il y a quand même un risque. Il faut quand même... Je voudrais savoir comment vous avez psychologiquement fait les choses. Parce que, Christophe, tu es en face de deux copains. On sait que dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il y a une approche métier. Donc il faut aussi. Donc c'est peut-être à toi que je vais poser la question, Christophe. C'est peut-être toi qui as été l'instigateur. Comment est-ce qu'on se met autour de la table et comment est-ce qu'on commence concrètement, à savoir quelles seront la répartition des rôles, qui fera quoi et comment on définit l'objectif commun?
Absolument. Je crois que la première chose, c'est la confiance. Voilà. Il faut avoir confiance en ses futurs potentiels associés.
Et pour donc ça c'est subjectif.
C'est du ressenti. Oui, alors c'est subjectif. Pas totalement pour nous, parce qu'avec Grégory, on se connaissait déjà. Ouais. Et on avait déjà bossé ensemble. Donc, il y avait une confiance naturelle qui était déjà installée. La transitivité faisant que Grégory ayant confiance en Anthony, j'ai eu confiance en Anthony aussi. Mais après, on a passé tout ça à l'épreuve du feu. Effectivement, on s'est mis autour de la table et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire de cette structure, en partant d'une page blanche. Et on s'est rendu compte très très rapidement qu'on avait absolument les mêmes convictions, qu'on avait la même énergie, qu'on avait la même passion, qu'on avait la même envie et qu'on avait globalement le même objectif à atteindre avec des trajectoires pour l'atteindre un petit peu différentes, mais au contraire, qui enrichissaient vachement le débat. Et il se trouve que de par nos parcours et de par nos profils, on a très vite trouvé une complémentarité. Parce que dans le deal que nous proposait AXA, de créer cette agence qui est la plus grosse agence de Normandie en termes de nombre de clients, c'était de mettre trois associés. C'était ça le deal. Pourquoi trois associés? Parce qu'il fallait que cette agence soit experte dans tous les segments du jeu. Les segments du jeu dans l'assurance, le particulier, le professionnel, l'entreprise, l'épargne, la prévoyance et puis aussi la banque, puisque AXA a une activité banque et d'ailleurs excellente activité pour les clients d'assurance AXA. Donc tout ça a fait que mécaniquement et logiquement, on a trouvé notre place très rapidement.
Moi j'avais la chance. Parce que le projet avait la bonne dimension finalement.
Le projet avait la bonne dimension. La complémentarité des associés faisait que il n'y avait pas de trou dans la raquette. Il n'y a pas eu de choix de dépit ou de renoncement dans notre organisation. Au contraire, on a réussi à créer un modèle que chacun voulait porter dans son rôle et dans sa contribution. Et ça s'est fait finalement vite. Et puis on avait tous envie de travailler ensemble. Une fois que tu as mis le pied dans l'idée, une fois que tu as envie de bosser avec tes associés, une fois que tu as envie d'affronter la situation, derrière,
tu viens de le dire, on parle d'envie.
Bien sûr.
Le dénominateur commun, c'est peut-être l'envie. Parce que, alors, on peut peut-être, justement, là, une fois que vous avez fait ça, on parlait d'envie. Faisons un petit tour de table, quelle était l'envie?
Alors moi, l'envie générique qui est un élément déclencheur de ma curiosité, c'est l'envie d'entreprendre avec un sens particulier. Et donc, c'est un terme qui est assez galvaudé, dont on parle beaucoup, d'avoir un métier avec plus de sens que ce qu'on avait. Mais moi, tout de suite, j'ai trouvé la notion de sens dans le monde de l'assurance, qui peut paraître, et il ne faut pas avoir peur des mots, moi, en l'occurrence, c'est ce que j'ai dit à la compagnie lors de mes premières interactions avec eux, avec la direction d'AXA France, c'est que ça peut paraître poussiéreux, le monde de l'assurance. Par contre, quand on creuse un petit peu, la notion de conseil, d'accompagnement et de protection, qui fait partie intégrante du devoir de conseil d'un agent général d'assurance, eh bien...
Ça correspond à tes valeurs.
Correspond, un, à l'ADN du monde de l'assurance, parce qu'on est là pour conseiller et protéger, et deux, correspond à mes valeurs, en plus cerise sur le gâteau, avec un impact local et une volonté personnelle de revenir aux origines sur le territoire à vrai. Donc il y avait énormément de choses qui collaient. Une fois que le projet a été posé théoriquement et qu'on a échangé avec Christophe et Anthony, qui sont aujourd'hui mes associés, on s'est rendu compte que, un, le projet tel qu'il était présenté était intéressant après avoir épluché de manière assez détaillée avec un...
Ça, on en parlera après, on parlera du financement, parce que c'est intéressant de savoir comment on s'organise sur le financement.
Avec un expert comptable qui nous a aidés, hein, et des experts comptables d'ailleurs. Et de ce que disait Christophe, et pour rebondir là-dessus, ce qui a été primordial, c'est la complémentarité, encore une fois sur le papier, qui s'est transposée de manière opérationnelle dans les premiers rendez-vous à distance, parce que j'étais en Espagne, moi, qui ont lieu entre Christophe, Anthony et moi, sur quels vont être nos rôles, quels seront nos rôles transverses et le dénominateur commun de la structure sur lequel on devra avoir tous les trois une appétence et un rôle opérationnel, à savoir le monde du particulier à travers le management de nos équipes, et ensuite comment va se répartir les expertises sur le monde, sur le professionnel, l'entreprise et le patrimonial. Et ensuite, comment on va porter ces expertises, quelles sont les idées qu'on va déployer et quelles sont les ambitions chiffré mais pas que, qu'on porte pour cette structure. Et ça s'est fait de manière extrêmement rapide, en peu de rendez-vous entre nous, et ce qui a mis ce fameux degré de confiance, le mot-clé utilisé qu'on affectionne tous les trois particulièrement, puisque sans confiance, on fait rien. Et en l'occurrence, moi, il y a une expression qu'on a utilisée depuis le premier jour où on s'est officiellement rencontré dans le cadre de ce projet, on l'utilise encore au quotidien, c'est qu'effectivement, la confiance est un a priori, et là, on avait un a priori positif sur la confiance, parce qu'il n'y a que l'expérience au fur et à mesure qui peut nous le confirmer. Mais il y a une phrase intéressante, et ça marche dans les deux sens, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, mais inversement aussi. Et là, il y avait des doutes nulle part, ce qui a fait qu'on s'est lancé, et à un moment donné, il faut aussi accepter de se lancer dans le grand bain.
Donc là, c'était... En plus, on pourra en parler un peu de vos histoires, de là où vous venez. Toi, je sais que tu viens d'un milieu d'entrepreneur, puisque... Oui. Donc c'est aussi intéressant de savoir comment... on a peut-être une appétence un peu plus forte quand on vient de ce milieu-là, et en tout cas, donc on voit que c'était l'envie et le fait déjà de s'organiser correctement. Toi, Anthony, quand t'es arrivé, parce que tu avais une formation qui était effectivement plus... Je vais dire, entre guillemets, plus administrative, moins commerciale que Christophe et Grégory, qu'est-ce qui, toi, a fait que, même familialement, alors, Christophe, je te mets un peu à part, parce que toi, tu étais déjà dans le système, mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on peut être confronté à des risques. Alors, l'envie, c'est une chose, mais on va aborder le sujet des risques, on bascule du salarié à l'entrepreneuriat. Mmh. Anthony, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce moment où tu décides, parce que... quand t'es en place et que tu as finalement des revenus qui sont... C'est sûr que tu es une économie de famille. Qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, t'as basculé ?
Alors, le premier point qui fait que j'ai basculé, c'est l'énergie et la confiance que j'ai eue dans mes premiers échanges avec mes deux associés. C'était un point clé. En plus, on a, comme Grégory l'a bien mentionné, tout s'est joué à distance.
C'est ça qui est...
C'est
un truc qui n'aurait jamais pu exister il y a une vingtaine d'années.
Quoi. Enfin, tout s'est joué à distance. La distance ne complique pas les choses dans la relation. On s'est mariés, hein. C'est un deuxième mariage qu'on a fait. Moi, j'ai pas encore divorcé, jamais, j'espère. Mais c'est un deuxième mariage qu'on a fait avec Grégory et Christophe. Et voilà, quand on se marie, il faut savoir pourquoi on s'engage. Les risques, juste pour basculer du salariat vers l'entrepreneuriat, ce sont des risques qu'il faut poser sur la table, je pense, avec sa famille, d'abord, parce que
quand on échange,
je ne serais jamais parti sur ce projet-là si j'avais pas eu le support et le soutien de mon épouse à l'époque, puisque j'avais pas encore mes deux petits bonhommes. Mais c'était le premier point. C'était que c'était un projet de vie, c'était pas seulement un projet professionnel, c'était un partage avec mes associés, mais un partage aussi avec ma compagne. Donc ça, c'était le premier point à lever. Le premier point a été levé très rapidement, puisqu'elle m'a dit, quoi que tu décides, que ce soit un succès ou un échec, faut y aller, parce que On ne peut pas laisser passer le temps sans saisir les opportunités quand elles se présentent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on en avait laissé passer quelques-unes, ou du moins, on ne les avait pas mises en place. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était ce qui m'a mis en confiance sur ce projet, c'est qu'on est sur un modèle qui, il faut avoir l'honnêteté et la transparence de le dire, a certains côtés rassurants.
Le premier côté rassurant,
effectivement, dans notre job, planter une boîte, ça n'existe pas, c'est pas possible. La seule obsession qu'on a, c'est une obsession de croissance et de performance.
Ouais. Voilà. Tout à fait.
C'est vrai, c'est sécurisant.
Vous êtes soutenu, vous êtes agent généraux.
On a un business model qui est basé sur du récurrent, le récurrent des cotisations d'assurance. Ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est aller plus loin et aller vite plus loin. Donc, c'est ça, finalement, aujourd'hui, notre enjeu à nous.
D'ailleurs, on abordera un sujet qui est l'innovation. Comment est-ce qu'on innove dans c'est intéressant.
Dans un métier qui a plus de 3000 ans.
Je termine. J'ai une question pour toi, Anthony. Si tu avais dû te lancer seul, est-ce que tu l'aurais fait ou est-ce que...
Absolument pas.
Ouais, non, c'est intéressant. Donc finalement, on voit bien que l'entrepreneuriat prend plusieurs revêt plusieurs formes. Et là, toi, c'est l'association qui était un élément déclencheur.
L'association, premier point, qui a été un élément déclencheur, parce que je voyais beaucoup de complémentarité dans les profils, et je savais que j'allais pouvoir m'appuyer sur des compétences, notamment commerciales, que je n'avais pas forcément développées dans mes expériences passées. Deuxième point, la possibilité aussi de s'appuyer sur des équipes déjà compétentes.
Alors, quand on parle de ce que vous avez aussi repris un existant.
Tout à fait.
Absolument. Exactement. Deux existants.
Et ça, c'est une force très rassurante dans le projet. C'est de pouvoir se dire, on va apporter beaucoup de choses. Une vision, une stratégie, des ambitions, des objectifs, des compétences, puisqu'on avait chacun aussi nos backgrounds, des grosses structures dans lesquelles on avait travaillé. Mais le fait d'avoir une équipe, de vivre cette aventure avec une équipe, c'était un gros point déterminant dans ma décision.
Alors, donc, on a compris, là, vous êtes trouvé, vous avez échangé, vous avez décidé sur les fonds baptismaux de l'entrepreneuriat de vous unir. Il y a une question dont on parlait tout à l'heure, donc c'est la reprise. Donc là, est-ce qu'on peut parler de reprise plus que de création? Là, vous êtes vraiment le cabinet d'existé.
C'est une reprise avec une restructuration, mais ça reste une reprise. C'est
reprise d'entreprise et création d'identité.
D'accord. Donc vous avez repris une entreprise vous avez racheté un fonds de commerce.
Un portefeuille, c'est ça le bon terme.
Des portefeuilles clients, exactement.
D'accord. Donc ça, vous êtes... comment vous avez financé tout ça? Comment ça se passe? Non, je dis ça parce qu'on a aussi la vocation dans cette émission d'essayer de donner des idées à d'autres et de démontrer que tout est possible et que le financement est souvent, et d'ailleurs est essentiel dans le développement de société, est possible. Donc comment ça se passe, la reprise d'un... Il faut des apports personnels, il faut des partenaires banques, enfin je sais pas comment ça marche.
C'est très encadré en fait, vas-y correctement.
Tu as donné les deux éléments structurants en fonction des situations bien évidemment, mais de manière traditionnelle, Christophe est peut-être dans un modèle un petit peu à part compte tenu du fait que lui il avait sa structure seule, mais en tout cas quand on arrive sur ce type de projet sans avoir été agent général dans le passé, ça passe forcément par une partie d'apport personnel.
D'évaluation des compétences, j'imagine que les compagnies sont...
Les compagnies sont regardantes avec
tout un process de recrutement en amont.
Un process de recrutement qui s'apparente au process de recrutement dans le salariat, où ils valident des profils en tant qu'agent général, en tant qu'agent généraux potentiel, puisqu'il reste, une fois qu'on est nommé, il reste une partie qui s'appelle une période probatoire pour voir évoluer dans la réalité opérationnelle de reprise d'une agence et pouvoir mettre un coup de tampon ou pas.
Donc le simple fait d'avoir de l'argent n'est pas suffisant, c'est une condition nécessaire.
Exactement, il y a une condition à l'entrée, la condition financière c'est un minimum d'apport personnel et aller chercher un partenaire bancaire ou des partenaires bancaires, en l'occurrence pour nous un partenaire bancaire chacun. Là il faut aussi vendre son projet comme si on était
en création pure
exactement. Après on en a parlé du modèle rassurant basé sur la récurrence, basé sur aussi une assise de notoriété qui est AXA France, mais tout ça pour dire que c'est un modèle plutôt traditionnel, apport partenaire bancaire. Et on a fait ressortir quelque chose d'important, c'est AXA France qui sélectionne ses agents généraux à l'entrée et qui les surveille sur les premiers mois d'activité pour valider définitivement ou pas
Oui, vous êtes très accompagné.
Ce programme de reprise.
Alors, il y a un sujet, donc là, on voit, finalement, le financement est assez classique, mais qui nécessite quand même une prise de risque, parce que pas tout financement est engageant, donc là, vous passez le grand bain. En fonction de vos profils, il y a un truc qui est intéressant, c'est comment est-ce que l'on s'invente, entre guillemets, chef d'entreprise, parce que là, vous reprenez une structure, donc j'imagine qu'il y avait des salariés. Donc là, on va parler du management et on va parler de la reprise, parce qu'on peut avoir l'énergie de vouloir créer. Après, il faut que, finalement, il y a aussi l'acceptation des équipes que vous avez reprises. Vous n'êtes pas parti de zéro, donc ça veut dire que comment est-ce que vous avez piloté ça? Vous aviez...
Point important et structurant.
Oui, ouais.
C'est le nerf de la guerre. On sait que
dans la pyramide de Maslow du chef d'entreprise, tout en bas, il y a l'équipe, hein, et nous, on en est convaincus. Alors, il se trouve que de notre parcours, on a managé.
Ah oui, vous avez des profils de manager, tout le monde a managé.
Et oui, que ce soit Grégory, que ce soit moi, on a quand même pas mal managé. On a managé des profils un petit peu différents, mais plutôt des profils dans le domaine commercial. Et puis surtout, on a appris beaucoup de choses des grandes structures dans lesquelles on a bossé. Et le pari que moi j'ai fait en arrivant dans le monde de l'assurance en 2017, c'est de me dire, dans un secteur dans lequel le management est assez traditionnel, voire parfois absent, c'est comme ça. Au contraire, moi, je vais vouloir le dynamiser. Et l'idée, c'est d'importer les modèles, les bonnes pratiques, à l'échelle, bien sûr, que j'ai appris dans les super boîtes dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, et de les mettre en place dans ma structure. Et regarder si ça marche.
Donc ça, c'est la force de l'expérience.
Et la réalité, c'est que ça marche.
Ah oui, mais c'est intéressant, ça veut dire que finalement, les best practices qu'on trouve dans des grosses organisations, qui sont parfois lourdes quand on est à l'intérieur... Quand on en sépare et qu'on en extrait, on peut faire de la magie finalement.
Mais oui, parce que tu parlais du sujet RH, je te prends des exemples très simples. Mettre en place dans une structure d'agent général une réunion hebdomadaire, un point de one-to-one avec chacune chez nous, ce sont plutôt des collaboratrices, mettre en place chaque année une revue à 360, perf et développement, etc. Finalement, ça se fait pas toujours, mais quand ça se fait, tu vois que ça a de l'impact immédiat. Et tout ça, on l'a fait dans un cadre qui est super important pour nous, qui est de donner du sens à nos équipes. Il faut que les équipes comprennent le sens de notre boulot. Notre boulot, c'est pas de vendre des contrats d'assurance, c'est pas ça le sens de notre boulot. Au même titre que le sens du boulot de coiffeur, c'est pas de couper les cheveux. Le sens du boulot de coiffeur, c'est de rendre quelqu'un beau. C'est de rendre quelqu'un beau. Nous, notre boulot, en tant qu'assureur, c'est d'aider les gens quand ils ont des problèmes. Et quand ce sens, tu arrives à le faire ruisseler au niveau de toute l'équipe, et c'est un travail, c'est de la conduite du changement, mais en tout cas, il faut l'afficher avec conviction. Quand tu arrives à le faire ruisseler, tu te rends compte que l'équipe va adhérer au modèle parce qu'elle va comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait tous les jours.
Donc ça, c'est donner du sens, effectivement. Ouais. Donc partager le sens, et en tout cas le projet, les objectifs que vous aviez définis tous les trois, il fallait effectivement que tout le monde les partage pour arriver à atteindre les...
C'est le point de départ. C'est la condition nécessaire. On parlait de conditions nécessaires et insuffisantes, c'est la condition nécessaire.
Et comment vous vous répartissez? Vous avez chacun vos équipes? Vous êtes combien d'ailleurs?
On est 13.
Aujourd'hui, on est 10 salariés plus les 3 associés. Ouais.
Ah oui, donc vous avez une répartition, vous êtes répartis un peu les rôles ou...
Une répartition matricielle, on a aussi emporté la matrice dans nos petites structures, ça c'est super.
Bah, si c'est flexible.
Oui, parce que tu te rends compte que tu peux mettre en place ces modèles aussi à l'échelle d'une agence d'assurance, ça pose pas de problème. On a déjà, on est chacun agent manager, ça c'est un nouveau concept qu'on a intégré dans notre organisation, c'est-à-dire que chacun de nous trois est manager direct d'un certain nombre de collaboratrices. Okay, ça, c'est la partie très verticale. Et puis ensuite, la partie horizontale, c'est qu'on porte chacun un PNL par rapport à nos objectifs. D'accord.
Ah oui, donc il y a des business units, enfin il y a des entreprises dans l'entreprise finalement.
C'est ça, exactement. Donc les trois PNL, c'est le marché du pro que porte Greg, le marché de l'épargne, de la retraite que porte Anthony, puis moi je porte le marché de l'entreprise. Et parallèlement à ça, tous les trois, on drive nos équipes sur notre performance et la satisfaction de nos clients sur le marché du particulier. Le particulier, c'est 55% de notre chiffre d'affaires. Donc, tu vois, c'est que c'est un marché très important sur lequel on continue à rester actif. Sur lequel on est impliqué tous les trois. Comme ça, on partage la responsabilité tous les trois de la performance de ce marché. Donc, c'est parfait.
Et donc, quand vous avez cette répartition, là, c'est intéressant. C'est aussi intéressant de bien définir les objectifs de chacun. Parce que d'abord, c'est une anticipation du conflit.
Exact.
On est dans de l'objectivité, ça marche, ça marche pas, mais au moins on sort le subjectif. On voit bien que dans les associations, c'est toujours le subjectif qui pêche dans la pérennité des activités. Et donc, quand vous avez cette volonté de positionner chacun des tunnels de management, derrière, on parlait tout à l'heure d'innovation, puisque c'est assez traditionnel. C'est bien d'apporter de la structure de gros groupes. Comment est-ce que sur un métier, pour reprendre vos termes, vieux comme le monde, on arrive à innover quand on est agent? Parce que vous êtes des entrepreneurs, mais des entrepreneurs finalement très encadrés. Vous portez 100% du risque. Vous êtes épaulé. Alors comment est-ce qu'on nourrit sans tomber dans le côté...
C'est une excellente question. Et justement, je pense que moi, la notion d'innovation, elle est liée très directement, au domaine duquel on parle, et deux, à une situation plus générale. C'est-à-dire que quand on parle d'innovation dans le monde de l'assurance, qui plus est dans une TPE comme la nôtre, aujourd'hui AXA Sénestuaire, 10 salariés, 3 associés, eh bien, ça passe par des choses très opérationnelles, très concrètes, typiquement la notion RH. Le fait de processer avec une réunion hebdomadaire avec toute l'équipe, dont une partie à distance parce qu'on est sur deux sites, le fait d'avoir des points individuels avec son agent manager de manière hebdomadaire, le fait d'avoir un performance et développement par an, tout ça finalement, contrairement à d'autres structures, ça c'est de l'innovation dans une agence d'assurance.
Faire un kick-off annuel, c'est une innovation.
Exactement. Oui.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut changer les pratiques. En plus, à l'heure du beaucoup de distanciel, on voit qu'il y a quand même cette... Cet ADN pour créer l'ADN des structures, il faut du présentiel. Donc finalement, il y a aussi ça, quand on veut innover dans l'humain.
Avoir la chance d'être reçu sur un podcast de Radio Gira, c'est innovant pour des agents généraux d'assurance. Et donc ça passe par des choses très concrètes et très opérationnelles, que ça soit au niveau RH, que ça soit au niveau commercial aussi, sur... sur des bonnes pratiques, le fait de développer un réseau en local et d'intégrer des réseaux à vocation d'aider des entrepreneurs en devenir, des entrepreneurs en développement.
Parce qu'il ne faut pas s'ennuyer, c'est le problème.
Oui, c'est ça.
C'est que derrière vous arrivez à trouver des voies de développement un peu ludiques.
Derrière ta question, peut-être aussi, est-ce qu'on peut innover dans l'assurance? La réponse est oui, mais forcément. Et nous, on a envie d'être les porte-drapeaux de cette innovation. À la base, on était déjà tous les trois convaincus qu'on peut innover dans ce secteur. Ça, c'est une évidence. Innover en interne, comme le disait Grégory, puis c'est aussi innover dans la relation client. Aujourd'hui, l'assureur est beaucoup considéré comme parfois un mal nécessaire qui est là pour payer quand il y a un sinistre. C'est vrai, c'est une de ses fonctions. Mais l'innovation, c'est aussi de remonter dans la chaîne de valeur et d'être plus présent sur la prévention, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour les entreprises. Je te donne un exemple tout simple. Quand il y a eu l'incendie d'une brasserie au Havre, il y a de cela quelques temps, pour une raison de problème électrique. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec Grégory? On a appelé tous nos clients professionnels pour les sensibiliser à la situation. On a monté un partenariat avec un électricien pour que rapidement l'électricien puisse aller faire des petits checks de conformité électrique au niveau du compteur. Ça, c'est de l'innovation en amont dans la valeur qu'on peut apporter.
Oui, parce que le côté réglementaire dans l'assurance, c'est difficile. C'est quand même il y a une inertie dans le côté réglementaire.
C'est pas là qu'on va innover.
Tu vois, aujourd'hui, dans le service et dans la relation.
Aujourd'hui, il y a un champ d'innovation qui est extraordinaire. On l'a touché du doigt la semaine dernière. C'est l'arrivée de l'IA générative.
Alors, on allait en parler parce que on parlait d'innovation. Alors, vous savez que moi, je suis un garçon curieux par nature. Donc, sur ces secteurs notamment d'innovation sur l'IA, comment est-ce que vous allez percevoir ça? Alors, je vais peut-être me tourner un peu vers Otto parce que on va processer un peu les choses. Ouais. Comment est-ce que toi, tu vois peut-être justement les modifications qu'il pourrait y avoir dans le côté peut-être plus...
Ce qui est certain, c'est que pour tous les trois, l'intelligence artificielle est un outil qu'on va devoir utiliser, qu'on utilise. Alors nous, on l'utilise. Déjà, alors pour n'en citer qu'un, puisque c'est le plus connu, on utilise GPT-4, hein, et bien évidemment, nous à titre perso, mais aussi à titre pro. Et on a la conviction tous les trois que l'intelligence artificielle va nous permettre, à nous et à nos équipes, de gagner de la productivité pour se dégager du temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'enjeu, je dirais que c'est la conduite du changement aujourd'hui. Ça peut toujours faire peur à des gens qui n'ont jamais utilisé ces outils-là, de les utiliser. On a peur d'abord de voir son poste remplacé par un propre outil numérique. Donc on a un accompagnement.
Donc là, vous rassurez vos équipes.
Oui, tout à fait. On a un accompagnement, on a notre rôle de chef d'entreprise avec la casquette sociale pour rassurer sur cet aspect-là et surtout pour leur expliquer que les tâches à faible valeur ajoutée qui vont pouvoir être déléguées à ces outils-là doivent être remplacées par des tâches à plus forte valeur ajoutée au service de nos clients, dans la prévention, dans la RSE, parce qu'on est aussi sensible à la RSE aujourd'hui chez AXA Sénestuaire. Par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, on a mis en place la possibilité pour chacun des salariés de la structure aujourd'hui de dédier une journée annuelle à une association de leur choix pour œuvrer, une journée payée hein, par la structure bien évidemment, mais pour œuvrer à une cause qui leur est chère.
Oui, ça veut dire que quelle que soit la taille de la structure, on est obligé, alors là on parlait des outils, enfin, on va dire de l'IA, ça va forcément un peu descendant, parce que j'imagine qu'AXA France enfin, vous fait bénéficier aussi de toute l'ingénierie autour de cette innovation, mais ça veut dire aussi que vous, en tant qu'entrepreneur et donc détenteur de votre propre avenir, vous êtes obligé d'aller chercher des solutions qui sont adaptées à la taille de vos structures. Mmh. Donc il y a un flux descendant qui vient peut-être du haut, et vous êtes aussi dans cette dynamique. Mmh. Et ça, vous portez cette innovation.
Alors d'abord, ça fait partie de notre rôle hein, de porter l'innovation, parce que si on va à l'encontre de ce qui est inéluctable, on risque d'avoir des déconvenues dans les mois et dans les années qui viennent. Et en plus, comme tu l'as si bien dit, on a aussi AXA, qui est une compagnie qui est plutôt précurseuse dans ces domaines-là. Elle porte les outils, elle porte l'innovation, et on a un outil, on peut le citer, hein,
ouais,
AXA Secure GPT, qui vient d'être mis en ligne là, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, et qui va être l'avenir.
Oui, puis ça va transformer vos métiers finalement.
Ça va être l'avenir de notre quotidien. On l'utilise pas, mais nous on est plutôt early adopteurs, donc au contraire, on est hyper excités par ces disruptions technologiques finalement. Et là, la question qu'on se pose depuis la semaine dernière, c'est comment est-ce qu'on va utiliser cet outil, comment est-ce qu'il va nous faire gagner du temps, comment est-ce qu'il va nous permettre d'être plus performants, d'être plus rigoureux en gestion, d'apporter un niveau de service supérieur pour nos clients, parce que c'est toujours la finalité finalement quand tu fais ce boulot. Hein, le moment de vérité, c'est pas la conclusion de la vente. Hein, le moment de vérité, c'est quand le pépin arrive, donc il faut être bon surtout à ce moment-là, et cet outil va nous aider, on en est persuadé. Donc là on expérimente, on teste plein de choses, on a fait des tests incroyables. Maintenant il faut rationaliser pour rester dans un cadre quand même qui permet à chacun de continuer à ne pas être effrayé par l'arrivée du modèle, mais au contraire l'utiliser pour ses vertus et non pas pour ce qu'il pourrait apporter d'autres.
Et on se doit d'être ambassadeur justement. On a la chance d'avoir une compagnie innovante, enfin de travailler main dans la main avec une compagnie innovante qui met à disposition notamment l'outil qui vient d'être cité, qui est pas une évolution mais qui est une révolution dans le bon sens du terme. Et quand on dit ambassadeur, c'est nous-mêmes à expérimenter, et on en a parlé pas plus tard que mardi dernier en réunion d'équipe, et l'équipe commence à expérimenter avec les premiers retours en disant waouh, c'est génial, sur des cas très simples.
Ouais, donc c'est le partage quoi. La formation, le partage.
Bien sûr. L'information, le partage, les retours d'expérience, et pour que on puisse s'enrichir en équipe des différentes expérimentations qui sont faites, des feedbacks, et puis continuer sur le positif, éliminer ce qui marche moins bien avec ces outils-là. Et ça passe par des cycles d'itération qui sont assez classiques, mais qui sont très très vertueux au niveau d'une équipe, peu importe les appétences pour l'innovation. Et on voit qu'on a différents profils avec différents âges, mais sauf que...
Oui, ça peut réconcilier d'ailleurs toutes les générations.
Absolument. L'équipe est unanime, et c'était génial. Les premiers retours d'expérience qu'on a eu quelques heures après, c'était juste extraordinaire.
Et ça crée de la cohésion.
Aussi ce qui nous anime.
Et le point de départ, c'est désamorcer pour que l'équipe ne voit pas la menace, mais voit plutôt l'opportunité. Et ça, faut le faire tout de suite avec ce genre d'outils.
Et souvent, c'est la preuve par l'exemple.
Ah ouais.
Je prends des exemples très concrets de ce que ça peut leur apporter au quotidien. Tout de suite, la transformation va opérer. Si tu ne prends pas l'exemple.
C'est pour ça que c'est assez magique, c'est de voir la période qu'on vit en ce moment avec ces innovations. C'est-à-dire que des métiers que l'on pensait non soumis à l'innovation parce que très traditionnels dans le service vont vivre de belles heures. En tout cas, si c'est partagé, ça va être assez passionnant. Avant de faire une petite pause musicale, il y a un sujet sur le développement. Donc vous avez entrepris, vous avez finalement lié vos destins. Est-ce que vous avez, tu parlais de mariage tout à l'heure, je trouve intéressant aussi d'aborder cette anticipation. Bon, les armes ne montent pas au ciel. Il peut y avoir. Non, mais est-ce que vous avez abordé ce sujet du pacte d'actionnaires, du pacte d'associés?
Ouais,
bah, oui, c'est bon. On l'a plus qu'abordé.
Je trouve que c'est peut-être une information pour.
On l'a formalisé parce que d'abord c'est important. On fixe un cadre à nos équipes. Donc si on ne se fixe pas un cadre à nous-mêmes, on est déjà en tort par rapport à l'exemplarité. Et c'est surtout important parce que faut qu'on a besoin d'avoir des repères les uns par rapport aux autres. Des limites qui sont fixées, un cadre, une structuration. Partir dans un mariage sans formaliser par un contrat, ça n'existe pas. Donc, c'est ce qu'on a fait tout de suite.
Comment vous avez procédé ?
On s'est mis autour de la table avec un avocat.
On s'est d'abord mis autour de la table.
Finalement, on a listé les points qui étaient des points déterminants dans le bon fonctionnement de l'association. Et derrière, on les a reflétés dans le pacte d'associés. Typiquement, prendre une décision stratégique, est-ce qu'il faut qu'on soit trois à être d'accord, ou est-ce que deux sur trois, ça suffit? Tout ça, c'est matérialisé dans le pacte d'associés, par exemple. Donc, ces points-là, une fois qu'ils ont été traités, derrière, c'était de la formalisation juridique, mais avant tout, c'est, on veut être sûr de rien oublier sur les sujets qui pourraient faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait un conflit.
D'accord. Donc, c'est enlever le maximum de subjectivité.
Oui, exactement. À partir du moment où c'est cadré, limite droite, limite gauche, dans le pacte d'associés, on a notre liberté entre ces limites et on sait qu'on ne va pas dériver.
Et puis pareil, en tant qu'agents généraux d'assurance, on parlait de la chaîne de valeur. Là, on est typiquement dans la prévention de la notion d'association. C'est qu'on verrouille tout en amont. Pour moi, ça a une double vertu. C'est un, d'éviter les sujets de discorde qui peuvent être des détails au début et qui prennent de l'ampleur.
On le
voit en retour d'expérience dans notre réseau d'associations qui n'ont pas fonctionné dans différents secteurs d'activité. La première vertu, la première, et d'ailleurs il n'y a pas de plus importante que l'autre, mais c'est celle-ci. Et la deuxième vertu qui pour moi en est une très importante, c'est que ça permet aussi de s'aligner sur les ambitions plus long terme, plus stratégiques de la structure. Qu'est-ce qu'on veut en devenir de cette structure? Quelles ambitions on a? Et ça nous permet de s'aligner sur ces ambitions qui sont essentielles sur la pérennité d'une association. Et quand on parle de confiance, c'est ce qui nous a rassurés au début. C'est encore une fois, ça, c'est l'illustration concrète d'un exercice de style qui est indispensable. Et ce pacte d'associés, compte tenu de la nature de notre structure juridique en association,
c'est un règlement intérieur. Quand même. Enfin, on peut parler de la différence d'âge.
Exactement.
Ce qui va d'ailleurs beaucoup dans le sens, en ce moment, on parle des reconversions, mais on parle très peu, on parle des problèmes intergénérationnels, et je pense que à l'inverse, vous en êtes l'exemple, c'est intéressant aussi de se projeter. Je sais pas que nous sommes sur des âges avancés, Christophe,
pas quelques dizaines d'années. C'est ça,
ça veut dire qu'il faut bien l'anticiper, mais on voit bien qu'on va travailler de plus en plus longtemps et ce genre de discours, même de façon sociétale, c'est hyper important. Parce qu'on va demander aux gens de travailler plus longtemps, et ça veut dire qu'on va certainement avoir une proportion d'entrepreneurs plus large, et je trouve ça intéressant, justement, cette approche que vous avez eue sur ce sujet.
Et tu parlais de la bascule, tu posais la question en début d'échange sur quels ont été les éléments déclencheurs de la bascule et de sauter dans le grand bain du monde de l'entrepreneuriat. Et donc ça en fait clairement partie, parce que ça permet de mitiger le risque à l'entrée et de se rendre compte des points sur lesquels on est parfaitement d'accord, éventuellement de mettre tout de suite sur la table les désalignements qu'on pourrait avoir, parce que ça fait aussi partie du jeu et de la complémentarité. Et donc c'est important de pouvoir checker tous ces points-là pour se projeter. Et c'est ce qui fait qu'une association fonctionne ou pas sur la durée, pour moi. En tout cas, c'est de maximiser les chances.
À mon sens, il n'y a que des avantages à le faire et aucun inconvénient, enfin, et que des défauts à ne pas le faire.
Ce serait même une faute de gestion que de ne pas le faire.
Ouais, c'est suicidaire pour l'association de ne pas faire un pacte d'associé.
On va terminer cette première partie d'interview votre parcours à tous les trois. On se retrouve juste après. On va faire une petite pause musicale. Je sais pas si vous avez un titre qui vous est venu en tête. Allez, je prends le premier titre. Comme ça, on est tranquille. Le premier qui vous vient en tête.
Are You With Well?
Allez, c'est parti. C'est parti. Et on se retrouve juste après.
Take your love and carry on.
Alors nous voilà de retour sur Radio Girafe avec Grégory, Anthony et Christophe. Là, on aborde notre deuxième partie de conversation. C'est finalement l'environnement dans lequel on évolue. Alors, on est sur la région normande. Pour certains, vous êtes à Vray. Pour d'autres, Rouennais. Ma question, elle va porter sur Le Havre. Pourquoi Le Havre? Les perspectives du Havre? Ce que vous en avez? Alors, pour vous, vous êtes de jeunes et de moins jeunes à Vray. À Vray, pardon. La liaison est mauvaise. Je voudrais avoir un peu votre perspective et votre ressenti de cette ville. Savoir comment elle a évolué, ce que vous en pensez et pourquoi Le Havre? Au-delà du fait que vous appréciez la ville et que vous êtes des Havrais. Je ne sais pas qui veut commencer.
Alors moi je veux bien commencer, donc tu l'as dit, mis à part le fait que nous sommes à Vray, et en tant qu'à Vray on est un petit peu chauvin dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qui est un élément déclencheur, c'est le retour aux sources dans une ville où on se sent bien, et qui plus est en plein développement depuis que moi je l'avais quitté.
Ça c'est super d'ailleurs d'avoir de jeunes entrepreneurs qui reviennent. On a besoin de services au Havre.
Et on sent qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et nous, que ce soit pour le monde de l'entrepreneuriat ou pas, dans le monde du salariat aussi, en tout cas de notre génération, Anthony et moi, on est de 87, mais de nos générations ou très proches, il y a énormément de personnes qu'on voit revenir. Et je pense que c'est un signal faible, extrêmement intéressant à développer. Il y a une attractivité... il y a une attractivité normande de manière exponentielle, je trouve, depuis le Covid, sur la qualité de vie, sur aussi le dynamisme du monde de l'entreprise, qui est un terreau plutôt fertile au sujet de l'entreprise en général.
Et, sur Le Havre en particulier, tu le ressens plus
Alors, je le ressens plus pour Le Havre pour une raison qui n'est peut-être pas bonne, c'est que je connais davantage Le Havre sur le monde de l'entreprise que d'autres villes, y compris majeures, en Normandie. Mais en tout cas, je suis convaincu, qu'il y a de très 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 belles entreprises, et ça c'est factuel, hein, c'est d'ailleurs pas une conviction, c'est factuel. Et deux, je suis convaincu, et ça c'est plus subjectif, mais que il y a un dynamisme...
Qualité de vie, on en parle beaucoup.
La qualité de vie qui rend une attractivité possible, et donc une attractivité notamment pour les entreprises au niveau politique RH, qui fait que on retrouve de très belles structures qui sont en développement.
Et des compétences qui finalement...
viennent beaucoup plus facilement.
Ouais.
Viennent beaucoup plus,
parce qu'on a connu la difficulté à Brest de recruter et de faire venir du monde sur notre territoire.
Y compris sur des secteurs que Le Havre avait moins l'habitude, en tout cas, d'accueillir, parce qu'il y a des secteurs d'activité historiques, mais le tertiaire se développe particulièrement, le monde du service, le monde de la tech, bref, tout y est, et je pense que c'est que le début, et qu'il y a un cercle vertueux sur ce monde de l'entreprise, qui fait que Le Havre, aujourd'hui, est un territoire extrêmement attractif, et la Normandie, plus généralement.
C'est vrai qu'on était plutôt, on le dit à chaque fois, industriel-portuaire, donc on était quand même... Et là, le service est un vrai sujet, parce qu'il faut qu'on arrive à développer l'emploi autour du service. Donc Christophe, tu peux peut-être, toi en tant que Rouennais, nous donner un peu ta vision, parce que c'est intéressant d'avoir une vision extérieure.
Ouais, si tu veux, avec plaisir. Alors c'est vrai que moi je suis né à Rouen, donc j'ai une relation très filiale avec cette ville. Pour autant, je me sens de plus en plus un petit peu plus à Vray. Et je te dis ça parce qu'il y a de cela quelques mois, Yann, chez qui on a l'habitude d'aller manger, un petit parisien pour le citer, juste à côté de l'agence, un jour m'a présenté à des clients à lui qui étaient attablés et leur a dit: tenez, je vous présente le seul Rouennais qui mériterait d'être à Vray. Oh, j'étais extrêmement fier, tu m'étonnes. L'addition était pour moi, tout le monde.
Non, mais c'est intéressant cette dichotomie légendaire.
Enfin, oui, tu sais, après, c'est vrai que quand tu vis à Rouen, tu vas rarement au Havre. Quand tu vis au Havre, tu vas rarement à Rouen. Chacun vit heureux dans sa ville. Pour autant, quand moi je prends la 13, le pont de Normandie, et que j'arrive au bureau par Océane, il y a cette luminosité qui est liée à la mer, qui est extraordinaire. Et ça, c'est une force de la ville qu'on retrouve pas ailleurs, en tout cas en Normandie. Après, je note aussi que tu as un vrai dynamisme économique. On sent que les gens ont envie, on sent qu'il y a des initiatives, et on sent que cette ville est en train de prendre une place qu'elle n'avait peut-être pas précédemment dans l'économie normande globale. On parle beaucoup du Havre. Nous, dans notre job, on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. On se rend compte qu'il y a des initiatives dans tous les sens. Il y a une volonté de faire avancer les choses et une volonté, finalement, aussi de tirer profit des avantages de cette ville du Havre pour pouvoir se développer et économiquement.
D'ailleurs, d'où le terme Seine Estuaire.
Oui, mais exactement. C'est
un peu partout. Hein.
Exactement. Après, les frontières d'une ville, pour délimiter une relation de cœur, c'est toujours un petit peu... Voilà, c'est trop petit. Moi, je suis sénomarin, je suis normand. Voilà, ça se passe comme ça. Ce que je vois beaucoup au Havre aussi, qui est peut-être une petite particularité de la ville, Rouen, c'est une ville fermée. Les gens sont assez fermés. C'est comme ça, c'est sa réputation. Ça peut s'expliquer dans l'histoire. Le Havre, c'est une ville ouverte à partir du moment où tu intègres les réseaux qui, eux, vont s'ouvrir. D'accord. Ouais. Donc c'est une ville qui est très, allez, je vais pas dire dominée, mais qui a ses habitudes au sein d'un certain nombre de réseaux économiques, qu'il faut pénétrer. Ça fait partie de notre job de développement. Et quand tu arrives à faire tes preuves et à montrer que tu apportes de la valeur et que tu peux contribuer, derrière, tu es accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Et il y a plein de choses qui te sont proposées. Et en tout cas,
tu vois une vraie différence, Rouen, en termes de réseau. Oui, peut-être parce que là. Une sous-préfecture.
Ouais, sous-préfecture. Rouen, c'est préfecture. Le Havre, c'est les deux sous-préfectures de Seine-Maritime de mémoire. J'y vois là une petite différence. Après, tu as aussi le sujet qui est plus historique. Hein. Le Havre a souffert, tout le monde le sait, après, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est une ville qui peut que se développer. Rouen vit un petit peu.
Sur ses acquis historiques.
Ses acquis historiques sur lesquels elle mise beaucoup, peut-être au détriment d'une énergie économique.
Oui, c'est-à-dire qu'elle vit un peu plus sur... Il y a plus une histoire qui ancre et qui évite cette dynamique à laquelle nous, on est finalement confrontés quasiment de façon obligatoire. Quoi. Ouais. Donc toi, c'est bien, on a une vision, mais de toute façon, on voit bien que sur le territoire, entre Caen et Caen était d'ailleurs un autre sujet, parce qu'on voit bien que ces trois villes-là ont du mal à circuler entre elles. Et quand je parle de circuler, on voit bien de quoi je parle. Que ce soit le train, les liaisons, c'est compliqué. En revanche, on se posait la question justement sur l'attractivité. Et au-delà du côté économique, puisque finalement chacune des villes a son savoir-faire, sur la vision que vous en avez d'un point de vue vie au quotidien. Alors vous avez des enfants, est-ce que vous avez vu des choses évoluer? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir évoluer un peu plus?
Qu'est-ce qui manque au Havre à part 350 jours de soleil par an?
Ouais, mais enfin, finalement, il y a le même problème à Rouen. Et... Ah, voilà, bon, en tout cas, c'est la même année.
Non, moi, pour voir les perspectives de la ville et la qualité de vie qu'on y a aujourd'hui, je trouve qu'il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur. Et quand on regarde déjà les deux ou trois dernières décennies, c'est plus la même ville, c'est plus le même paysage, c'est plus le même modèle économique. La qualité de vie, j'en parle pas. Christophe l'a dit précédemment, c'est une ville qui est extrêmement ouverte, de par son architecture d'abord, de par... on fait encore partie des grandes villes dans lesquelles il est assez facile de se déplacer,
et encore de
quel
se
que
loger,
soit le moyen de
locomotion,
et de se loger. Donc, et je trouve que ce qui fait la qualité de vie particulière du Havre, c'est qu'il y a plusieurs petits centres. Il n'y a pas un centre historique.
Ce qui était annoncé comme un problème avant, est-ce qui devient aujourd'hui
c'est une force.
Peut-être une
ouais,
force
c'est une force. Les quais Southampton ont été réhabilités. C'est devenu un pôle super attractif et très diversifié en termes de possibilités. On a l'ouverture sur la mer qui restera la force de toujours de ce grand port. Et je trouve que c'est très aéré comme ville. C'est très dégagé. Alors, ça l'est sur le plan. C'est pas une figure de style, mais sur le plan métaphorique aussi, puisque il y a de la place pour les entreprises, il y a de la place pour monter des beaux projets.
C'est un mélange des deux.
Tout à fait.
C'est vrai que l'image, il faut le reconnaître, a été. Les travaux qui ont été entrepris ces 20 dernières années ont quand même largement contribué à voir. Inciter des gens à venir nous voir. D'ailleurs, on le voit sur les chiffres du tourisme, c'est assez étonnant.
Et nous, on a des expériences concrètes avec nos clients, qu'ils soient pro ou entreprises. Quand de par la notoriété de l'agence, entre guillemets, de par nos réseaux, directement ou indirectement, peu importe, quand on rencontre des chefs d'entreprise dans différents secteurs d'activité avec différentes tailles de structures, eh bien, il n'est plus rare de rencontrer des personnes et de s'intéresser à leur parcours. Ce sont des gens qui ne sont pas à vrai.
C'est vrai que c'est intéressant, vous êtes un bon indicateur d'implantation.
Exactement, et en fait, moi j'ai trois exemples sur les deux dernières semaines dans trois secteurs extrêmement différents. Le secteur de la restauration, un notaire et une petite société dans le service à la personne. Trois chefs d'entreprise non navrés qui viennent de par le potentiel qu'ils ont ressenti, hein. Est-ce qu'il y a des choses concrètes derrière, des analyses? Je pense que oui, mais il y a aussi du subjectif et une envie de venir entreprendre dans un environnement dynamique. Et donc, moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est les deux dernières semaines. Trois rencontres de chefs d'entreprise, trois non-navrés qui viennent changer de vie et s'implanter au Havre parce qu'il y a du potentiel.
Bah ça, c'est plutôt encourageant et c'est vrai qu'on veut tous travailler dans ce sens-là. Il faut qu'on arrive à développer un peu déjà le nombre d'habitants, parce qu'on perd des habitants. Il faut que tout le monde
organise. Paraît-il, depuis 1975.
Ouais. Non, mais c'est assez étonnant. Bon, après, on a une périphérie qui est, les gens sont moins en centre-ville, ils sont un peu plus larges. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive et votre génération doit le faire et nous, on doit contribuer à accueillir tout ce petit monde. Est-ce que vous avez un monument emblématique sur le Havre? Bon, on les connaît, il y en a 5-6, mais allez, donnez-moi chacun le vôtre. Quel est celui qui vous touche le plus?
Moi, celui qui est... malheureusement, il n'est pas si vieux que ça, mais celui qui est devenu emblématique à mes yeux, c'est la Catène.
Ouais, la Catène. Ouais.
Je trouve qu'elle matérialise... c'est super, parce que c'est quelque chose qui est resté des 500 ans, qui n'aurait pas dû rester, mais qui finalement a été pérennisé dans le temps, petit 1. Puis c'est un bon résumé de... Le Havre est une ville d'art. J'y connais rien, il faut dire les choses très simplement, mais il y a quand même un...
Bon, je te rassure, je pense qu'on n'est pas tous hyper pointus non plus,
mais c'est vrai que c'est très visuel. Et j'assume, c'est une ville sportive, c'est une ville d'art. Moi, c'est plutôt le premier volet qui m'intéresse, mais c'est une ville d'art. Et la Catène, elle illustre parfaitement l'image de la ville portuaire, ouverte sur le monde.
Et jeune, parce que je trouve que ça donne une image... moi, je le perçois.
Ouais. Puis, pour rebondir, parce que c'est quand même un endroit incontournable, hein, et on en discutait encore avant-hier avec un non-navré qui était de passage, là, un ex-collègue d'SAP, avec sa femme en visite au Havre, juste parce que le Havre, et ça, moi, c'est pas que je l'ai appris, mais je pensais pas à ce point, est une référence dans le domaine du street art. Et donc, une fan de street art, alors je savais qu'il y avait des choses concrètes, notamment avec des artistes assez connus à l'international, mais par contre, que ça soit visité pour ce motif-là, je ne savais pas. Et donc, typiquement, on les a invités à aller visiter ce monument et l'alignement, j'ai eu un retour par SMS, l'alignement entre la rue de Paris, l'hôtel de ville qui est au fond, ouvert sur la mer, avec une luminosité extraordinaire à côté de la capitainerie, c'est juste qu'effectivement, ça, c'est un monument incontournable. Moi, on parlait de sport et j'ai pas d'autres monuments qui me viennent, mais par contre, moi, j'ai un lieu emblématique historique de par... du souvenir personnel, mais pas que. On a un track record sur le sport, et en l'occurrence, le HAC, club doyen des clubs français. Je vais parler d'une sous-discipline du HAC multisport qui est le HAC tennis. Pour moi, le HAC tennis fait partie, dans les quartiers moins connus, puisque plus résidentiels, alors connus par les Havrais, fait partie des endroits emblématiques de cette ville, pour une partie, j'en suis conscient, mais en tout cas...
Oui, c'est un vieux club.
C'est un vieux
club.
En
plus, ça rejoignit aussi les terrains du rugby.
Exactement. Et donc ça, typiquement, pour moi, c'est un endroit emblématique de par...
Oui, en plus, toi, tu as ta passion pour le tennis aussi, historiquement.
J'ai une passion personnelle et historique sur ce sujet, mais en gros, c'est vraiment c'est assez extraordinaire quand on se penche un peu sur l'histoire de ce club-là et de son emplacement et de la partie foncière aussi qui va avec. Et donc ça, pour moi, c'est un endroit typiquement emblématique de la ville du Havre.
C'est vrai que ça a été repris avec notamment la continuité avec les jardins suspendus, ça crée quelque chose.
Exactement, le développement qui va autour est extraordinaire.
Alors, notre Rouennais Havrais...
Je ne vais pas te donner un monument, mais je vais te donner un endroit. Un endroit que j'adore.
C'est exactement ce que j'attends.
Un endroit que j'adore parce que c'est un endroit de convivialité, c'est un endroit dans lequel tu sens que les gens sont bien. Moi, j'adore aller aux Halles Centrales. Voilà, les Halles Centrales, pour moi, c'est sympa parce que tout autour, ça vit, ça boit des cafés, ça mange à la terrasse des brasseries ou à l'intérieur quand le temps ne le permet pas. Et puis ce principe des commerces de bouche de qualité, ça rentre, ça sort, le matin tôt avant d'aller au boulot, le soir, juste après le boulot, en mode...
C'est vrai que ça a été bien dynamisé.
Je trouve que c'est un endroit que tu ne retrouves pas dans d'autres villes. Tu pourrais dire à Rouen, il y a la place du Vieux-Marché, mais la place du Vieux-Marché, elle ne ressemble pas tout à fait à ça. La configuration même très carrée, rectangulaire, des halles centrales avec ses halles au milieu et puis les commerces tout autour, font que c'est un endroit dans lequel, sur 300, 400, 500 mètres carrés, tu as de quoi te faire plaisir. Regarder, sentir la vie... s'attabler, prendre un petit café, observer, c'est super. Moi, je trouve que c'est un endroit que j'adore.
C'est un des nombreux centres-villes.
C'est le plus historique, certainement.
Bon, écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je pose toujours les mêmes questions pour conclure cette conversation, de savoir quel genre de girafe vous êtes. Alors, je ne sais pas si vous voulez me donner une girafe collective ou une girafe individuelle, mais c'est un portrait chinois. Alors, Grégo, tu serais quoi, toi? Tu serais quel genre de girafe dans notre communauté? On a eu des girafes festives, hein, pour vous donner. On a eu des girafes... qu'est-ce qu'on a eu? Alors, la girafe festive, c'était Hervé Drieux, dit, ça manque de boîte de nuit.
Avec la vie du Havre.
Bah, en lien avec, oui... Quel genre de... Après, vous n'êtes pas obligé de m'en donner une, j'en sais rien.
Moi, je serais plutôt la girafe amoureuse, parce que j'ai un côté... j'ai un côté émotif qui est lié directement aussi à cette ville. C'est un trait de caractère, mais que je porte... comme j'ai beaucoup d'affection pour la ville du Havre, beaucoup d'admiration aussi, et qui explique en partie mon retour et surtout mon épanouissement depuis que je suis rentré et que j'ai la possibilité d'entreprendre sur ce territoire et dans cette ville, je pense que je suis une girafe amoureuse du Havre, moi.
Bah, ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose.
Et moi, je serais une girafe curieuse. Parce que, moi, j'ai découvert le Havre quand je suis arrivé ici à 4 ans. Donc, j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai envie d'apprendre encore plein de choses sur cette ville. J'ai envie d'apprendre encore plein de choses sur les Havrais, sur les Havraises. Il y a la mer, il y a la forêt, il y a le dynamisme dont on parlait tout à l'heure. Il y a les découvertes. Il y a plein de choses à apprendre, sur le Havre. Donc, je me vois bien curieux, en tout cas avec l'envie d'en savoir plus. Quotidien.
Et moi, je suis la girafe sportive. Je l'assume.
C'est une hyperactivité.
On a une ville que, et puis en plus, on a une ville qui est quand même assez attractive sur ces aspects-là. On a le HAC, on a le STB, on a un club de rugby, le HAC Rugby, qui fonctionne très bien. Il y a plein de clubs. Le club de tennis que Greg a cité tout à l'heure marche bien.
Et des padels.
Tous les sports nautiques sont évidemment les bienvenus. Enfin, celui qui veut s'épanouir au Havre en faisant du sport et qui n'y arrive pas, il met de la mauvaise foi.
Bon, donc on va conclure là-dessus. On a une girafe amoureuse, une girafe curieuse et une girafe sportive. Je tiens à vous remercier de vous être prêté à l'exercice.
Merci
et
à
puis,
toi.
Vous pouvez retrouver ce podcast sur radiogirafenormandie.fr. N'hésitez pas à le partager. Merci beaucoup Grégo. Merci Christophe.
Merci Raphaël.
Merci beaucoup Anthony.
Merci Raphaël.
Ouais, merci, à bientôt.